Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ce mercredi 2 septembre, et pendant environ 2 mois et demi, s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès des attentats de janvier 2015, notamment ceux contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher des 7 et 9 janvier. Ce 9 janvier au matin, les frères Kouachi, auteurs de la première tuerie, se réfugient à Dammartin en Goële, en Seine-et-Marne, dans une imprimerie. Le chef de cette entreprise s'appelle Michel Catalano. Il est pris en otage pendant plusieurs heures. 5 ans après les faits, l'homme s'est confié à Code Source sur sa reconstruction personnelle et professionnelle. Un témoignage recueilli par Claudia Prolongeau.
Quand j'arrive devant l'imprimerie de Michel Catalano, l'équipe de complément d'enquête tourne quelques plans à l'entrée pour une émission consacrée aux djihadistes. Depuis 5 ans, à intervalles réguliers, généralement pour la date anniversaire des attentats du 7 janvier 2015, les médias contactent Michel Catalano pour l'interviewer. Parfois il refuse, le plus souvent il accepte. Ça n'aide pas ses affaires et il ne le fait pas de bon cœur, mais il croit profondément en l'importance de ce qu'il a vécu, en les valeurs de la France et en l'association des victimes de terrorisme qu'il affirme, témoigner, c'est important.
Merci beaucoup déjà de nous recevoir.
Ce jour-là, pour nous, il a donc dit oui.
Bah, vous êtes devant l'entreprise qui a été complètement reconstruite après le drame qui nous a touchés en janvier 2015. Donc le bâtiment maintenant est neuf d'apparence. On a changé l'aspect global pour qu'il soit plus beau. C'était volontaire de manière à le changer, que j'ai pas, même si c'est encore le cas tous les jours, que j'ai pas trop d'appréhension à revenir dans une entreprise dans laquelle j'ai vécu un drame important. Et du coup, ça fonctionne, puisque aujourd'hui, à part le matin quand j'arrive, le reste du temps, j'ai réussi à enlever tout un tas de ressemblances et ça me permet de continuer à travailler.
D'accord. On va à l'intérieur pour la suite ?
Oui.
Au fond de la cour, Michel Catalano a gardé une voiture criblée de balles qui était devant le bâtiment au moment de l'assaut. Il ne veut pas la montrer, mais savoir qu'elle est là lui permet, à lui, de mesurer le chemin parcouru depuis, comme une preuve que ce qu'il a vécu est bien réel. À l'intérieur du bâtiment, en revanche, tout a changé. Nous allons jusque dans son bureau, une pièce carrée, lumineuse et très décorée. Sur le mur du fond, un petit prince, dessiné, accompagne la citation de Saint-Exupéry qui court sur toute la largeur du mur. « Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »
Ça représentait quoi pour vous de créer une entreprise ?
Pour moi, c'était mon aboutissement et c'est ce que je voulais faire. Et il s'avère que l'entreprise dans laquelle je travaillais avait un peu de difficultés. Donc du coup, je me suis lancé. J'ai dit, tiens, bah, je vais me lancer dans mon activité et je vais monter ma propre entreprise. Bien qu'avant, j'étais dans une entreprise qui fonctionnait bien, mais ils ont décidé d'arrêter. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est le moment ou jamais. C'est quelque chose que j'avais envisagé. Je n'avais aucune compétence spécifique au départ. Et c'est vraiment avec mon épouse que j'ai décidé, et des associés à l'époque, que j'ai décidé de lancer cette entreprise. À la même période, on hésitait à faire le troisième enfant, parce que j'ai 2 enfants. Et on s'est dit, non, on ne peut pas faire les deux. Donc on s'est lancé à corps perdu dans l'entreprise.
Et c'était ça le troisième enfant ?
C'était ça le troisième enfant. Quand vous créez une entreprise comme ça depuis le début, que vous commencez à deux dans un bureau, que vous rachetez des machines, que vous recommencez, évidemment, vous y mettez tout votre cœur, vous y sacrifiez beaucoup de temps. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et en fait, quand en 2015, vous voyez vos entreprises complètement détruites, c'est un arrachement important. Tout au début, la création de mon entreprise, c'était en 2001. Je suis parti tout seul avec mon épouse et on a créé cette entreprise. Et on l'a fait prospérer jusqu'à 2014. C'est-à-dire que jusqu'à 2014, elle a progressé, prospéré. On avait fini de payer les machines. Et en 2015, j'avais déjà, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à mon épouse à l'époque, on va faire une petite pause. J'avais 48 ans. J'ai dit, on va faire une petite pause. Et cette année, on va prendre le temps pour renouveler les machines. Et à la fin de l'année 2015, j'avais fini de payer mon bâtiment.
Le 7 janvier 2015, vers 11h30, deux hommes cagoulés et lourdement armés pénètrent dans la rédaction du magazine Charlie Hebdo. Ils y tuent 11 personnes, puis une 12e, le policier Ahmed Merabé, en s'enfuyant dans la rue. C'est la première série d'attaques qui deviendront les attentats de janvier 2015 et que les Français découvrent presque en direct sur les chaînes d'infos.
Alors le 7 janvier 2015, c'est une journée très particulière. C'est mon anniversaire et c'est aussi celui de mon père. Donc c'est une journée qui est importante pour moi dès le début de l'année. Et ce jour-là, j'ai effectivement entendu, dans la journée, j'étais dans ma voiture, j'allais à un rendez-vous et j'ai entendu ce qui se passait chez Charlie.
Il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris.
Le drame qui était en train de se dérouler, ça m'a évidemment choqué. Ça m'a beaucoup marqué. Le 8, évidemment, on entendait toute la traque, on entendait tout ce qui se passait. Donc on voyait des gendarmes partout, des hélicoptères qui nous survolaient. On savait qu'ils étaient à peu près dans le même secteur. Donc c'est pas une journée normale du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé, nous, on est en entreprise, de faire fonctionner notre entreprise. Pour moi, évidemment, ça se passait quand même assez loin. Et j'étais très, 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 très loin de me douter de ce qui allait m'arriver le lendemain. Très, très loin. La journée du 8, mon fils m'a montré l'image horrible du policier abattu et ça m'a marqué. J'ai très très mal dormi le 8 au soir parce que cette image m'a un petit peu hanté toute la soirée. Et du coup, le vendredi matin, quand je me suis levé pour partir au travail, j'ai même oublié mon portable, ce qui m'arrive jamais, hein, chef d'entreprise sans son portable. Mais bon, quand je suis arrivé au bureau, que je me suis aperçu, j'ai tout de suite appelé mon épouse en disant « Voilà, j'ai oublié mon portable, tu me le ramèneras tout à l'heure quand tu reviendras. » Parce que elle aurait dû être elle aussi présente, mais ce matin-là, je lui avais demandé de faire une course pour l'entreprise. Et donc, elle n'était pas avec moi ce jour-là. Et évidemment, comme j'arrive le premier à l'entreprise, les choses que je fais en général, j'arrive, j'installe l'entreprise et j'ouvre une radio pour écouter un peu les informations parce que je suis tout seul dans mon bureau. Et en fait, j'écoute la radio et je vaquais à mes occupations. Mon collaborateur est arrivé, on a commencé à prendre un café, à échanger au niveau de la journée, de ce qu'on allait faire ce jour-là. Et du coup, j'étais en train de lui expliquer ce qu'on allait faire dans la matinée. C'était un début d'année assez riche en travaux. Et on sonne à la porte et c'est là que ça a commencé.
Quand on sonne, Michel Catalano attend un commercial. Son collaborateur Lilian ouvre le portail, mais comme personne n'entre, Michel Catalano sort devant la façade de l'immeuble.
J'ai tout de suite vu le lance-roquettes et la Kalachnikov et j'ai compris tout de suite qui c'était. J'ai entendu la porte claquer qui commence à monter les escaliers et je me suis retourné. J'ai marché vers mon collaborateur et je lui ai dit « Cache-toi et coupe ton portable ». Et j'ai été vers eux.
Lilian se cache sous un évier et Michel Catalano se retrouve seul avec les deux tueurs. La première chose que les frères Kouachi lui demandent, c'est s'il les reconnaît. Il répond que oui. La deuxième, c'est d'appeler la gendarmerie pour les prévenir de la prise d'otage en cours. Michel Catalano le fait avec pour seul objectif d'éviter que les tueurs ne découvrent Lilian. Puis il leur affirme n'avoir ni radio ni télé pour qu'ils aient le moins d'informations possible sur ce qu'il se passe à l'extérieur.
J'ai toujours eu l'impression que j'allais mourir. Donc pendant tout le temps que j'ai passé avec eux, parce que je savais qu'ils étaient déterminés et je le savais. Et ensuite j'entendais effectivement tout ce qui se passait dehors, c'est-à-dire des hélicoptères qui arrivaient, des gendarmes qui s'installaient, enfin tout ce qu'il y avait autour. À aucun moment je me demandais comment je pouvais sortir vivant de ça. Donc non, pour moi j'étais sûr de ne pas sortir vivant. Mais la seule chose qui me préoccupait, c'est comment faire en sorte que mon collaborateur sorte vivant. Et comme j'ai compris qu'ils avaient l'intention de sortir du bâtiment pour être vus, je me suis appliqué à faire en sorte qu'ils sortent du bâtiment. Voilà, ça a été je me suis dit, tant que je peux faire ça, j'essaierai de faire en sorte qu'ils sortent du bâtiment pour que tout se passe à l'extérieur et pas dans le bâtiment.
La suite, nous l'avons pour la plupart suivie en direct, sur les chaînes d'information en continu. Finalement, Michel Catalano et Lilian s'en sont sortis vivants. Lilian a communiqué par SMS avec le GIGN jusqu'à l'assaut final et sa libération. Michel Catalano, lui, a été relâché plus tôt. Ça a duré combien de temps en tout, finalement ?
Presque 2 heures. C'est très très long, parce qu'à plusieurs moments, j'ai l'impression que je vais mourir. Et à chaque fois, je me dis « Ah, ça va être là, et puis non. Ah, ça va être là, et puis non. » Et tous ces moments-là de difficulté, je les revis la nuit, aujourd'hui. Et d'ailleurs, la vraie peur, je l'ai ressentie après. Comme lorsque vous avez évité de justesse un accident et que vous vous arrêtez un peu plus loin et vous tremblez. C'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était visible sur moi. C'est-à-dire que tout de suite après que je sois rentré chez moi le samedi soir, enfin le samedi matin plus exactement, j'avais les symptômes de post-traumatique, c'est-à-dire je tremblais, je bégayais, j'étais complètement comme un tsunami dans ma tête, j'étais complètement renversé, bouleversé par ce qui venait de m'arriver, quoi.
Le lendemain, Michel Catalano revient dans son entreprise et là, c'est un nouveau choc.
Le samedi, je suis confronté, j'avais oublié mes papiers, je suis revenu au bureau pour récupérer des papiers. J'avais demandé l'autorisation parce qu'on ne rentre pas sur un bâtiment sous scellé aussi simplement que ça. Il a fallu faire des demandes officielles au ministère et tout. Du coup, j'ai vu aussi l'état de mon bâtiment et ma femme aussi, puisque tout ce que je vous dis, c'est voilà, les traumatismes sont familiaux dans ce cas précis. Ça touche toute la famille, ça touche mes enfants, ma femme, mes parents qui étaient encore vivants à l'époque, ça touche mon frère, ma sœur, enfin voilà, ça touche tout le monde, le microcosme qui est autour de vous. Mais du coup, le samedi, quand je suis retourné dans le bâtiment, j'ai vu ça, et pour vous dire, ma femme qui n'a pas eu l'autorisation de rentrer dans le bâtiment a failli s'évanouir, c'est moi qui l'ai retenue, parce que évidemment, tout était détruit à l'intérieur. C'est-à-dire que c'était pour moi, alors qu'on venait de finir de le redécorer complètement, c'était pour moi un choc. Et donc, à partir de là, je suis ressorti de là et je me suis rendu compte, en plus de tout ce que je venais de vivre, que j'allais failli mourir et tout, que j'ai en plus, je n'avais plus d'outils, plus rien, quoi. Tout ce que j'avais construit était détruit, j'avais plus d'argent non plus pour faire vivre ma famille, mes collaborateurs. Et donc, du coup, au lieu de faire comme m'a dit le premier psychiatre que j'ai vu, c'est-à-dire m'arrêter pendant un mois et prendre des médicaments pour dormir et récupérer pour pouvoir me réconfronter, dès le lundi, il a fallu que je gère. Comment on va gérer ça pour que ça se passe le mieux possible pour les employés et puis pour nous. Donc il a fallu faire ça dès le lundi, quoi.
Les 6 employés de l'entreprise bénéficient d'un accident du travail, sauf Michel Catalano puisqu'il en est le gérant. Pour ne pas arrêter son activité et pour continuer à avoir des revenus, il reprend très vite, d'abord en sous-traitance, puis on lui prête des locaux et enfin il finit par en louer dans une ville voisine en attendant que les siens, entièrement détruits par l'opération du GIGN, soient reconstruits.
C'était un chemin très 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 long pour en arriver à l'inauguration le 29 septembre 2016.
Monsieur Michel Catalano, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Là, ça a été une étape positive psychologiquement, puisque ça a été un moment fort pour moi, puisque j'avais réussi à reconstruire mon bâtiment et à remettre le bruit des machines à l'intérieur du bâtiment.
Et d'ailleurs, vous avez une photo là-bas, dans votre bureau de ce moment-là.
Oui, parce que des 5 ans qui viennent de s'écouler, c'est un moment fort. On sentait le positif de cette journée. On sentait l'importance que ça pouvait avoir pour les gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'il y avait aussi de ma famille, mes amis. Il y avait des gens de Dammartin. Il y avait tout un tas de personnes qui m'avaient soutenu. Et pour toutes ces personnes qui avaient jusque-là fait le nécessaire, c'était important. Et donc, c'était vraiment une belle journée.
Vous avez décidé, vous, de reconstruire vos locaux au même endroit alors qu'ils étaient complètement détruits, vous auriez pu aller les faire ailleurs. Il y a des gens dans votre entourage que ça a surpris et qui vous ont dit que c'était peut-être pas une bonne idée.
Ma propre épouse ne voulait pas rester, on voulait au départ, et moi aussi dans les premiers jours. Ce qui m'a fait aussi me rendre compte de tout ça, c'est que très rapidement, j'ai eu le président de la République. Le vendredi d'après, j'ai eu le président de la République en ligne qui m'a demandé ce que j'allais faire. J'ai eu une semaine un peu pour y réfléchir. Donc au départ, je me suis dit on voulait partir et puis finalement on a décidé de rester parce que pour moi c'était important. Et donc j'en serai toujours reconnaissant à ma famille, ma femme, mes enfants d'avoir compris que c'était important pour moi de le refaire au même endroit. Même si c'est difficile, hein, c'est comme revenir toujours au même endroit, mais je pense que pour moi, pour évacuer tout ça, c'est important parce que j'ai toujours une boule au ventre quand je viens le matin. Je ne sais pas si elle partira un jour, je l'espère toujours. Mais en tout cas, dès que l'activité redémarre dans mon entreprise, cette boule disparaît. Donc, et ça ne laisse pas une trace dans la zone industrielle d'un bâtiment qui peut-être, si ça n'avait pas reconstruit, serait toujours dans le même état, en tout cas détruit. On ne sait pas ce qu'il serait devenu depuis. Là, en tout cas, ça a effacé toute trace. Et les gens qui passent ici, s'ils ne sont pas au courant, ne s'aperçoivent de rien. Et ça aussi, c'est important.
Depuis l'inauguration en 2016, l'Élysée fait imprimer chaque année ses cartes de vœux chez Michel Catalano. Même si ce geste représente beaucoup symboliquement, financièrement, ça ne suffit pas à la boîte et il faut encore attendre 3 ans pour qu'elle soit enfin de nouveau sur les rails.
C'est à partir de 2018, à partir du moment où il y a eu moins de médiatisation et qu'on a pu se concentrer sur le travail de mon entreprise, j'avoue que à ce moment-là, on a commencé à redémarrer l'activité de façon importante. Et en 2019, pour tout vous dire, le bilan était proche de l'équilibre, donc j'en étais satisfait. Moi non plus, j'imaginais pas que ça allait être aussi long, pour être tout à fait honnête, et aussi dur. Mais finalement, on a réussi à remonter tout en ayant une perte en 2019. Mais très légère, on était à 40 000 euros de perte, ce qui était à peu près acceptable. Et cette année, ça démarrait plutôt bien en 2020. Et puis maintenant, il y a le Covid qui nous a replongé et qui me replonge dans la même chose qui est justement en 2015 ou 2016. Donc c'est au niveau chiffre d'affaires, évidemment, hein, c'est pas comparable pour le reste. C'est d'ailleurs pour ça que je prends pas les choses de la même manière.
Donc là, vous continuez et vous avez bon espoir de vous en sortir finalement?
Je continue, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et puis surtout, je me dis qu'avec ce qui m'est arrivé, je pense que malgré tout, tout ce qui est économique, on doit pouvoir s'en sortir. Et je vais tout faire, en tout cas, pour préserver mes employés, pour pouvoir continuer à cette activité, parce que ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour que mon entreprise ferme. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas moi qui va décider, c'est le chiffre d'affaires, donc on verra bien. Mais en tout cas, je me sens capable d'affronter ça de nouveau. Une fois que le process sera terminé et que j'aurai mon temps à 100% pour m'occuper de mon entreprise, voilà, ça va être difficile cette année. Je pense que l'année prochaine aussi, mais voilà, on va encore se battre. J'ai connu pire.
J'allais vous demander justement ce que ça représenterait pour vous si cette entreprise devait fermer finalement.
Alors pour tout vous dire, j'envisage pas, parce que ça serait pour moi quelque chose qui, j'espère, en tout cas c'est pas le cas, ça sera pas le cas, mais j'espère que ça n'arrivera pas, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie intégrante de ma reconstruction, et je ne sais pas du tout comment je le prendrais psychologiquement, donc je l'envisage pas, voilà, comme ça évite d'avoir des mauvaises pensées, j'en ai déjà suffisamment à gérer toutes mes nuits, donc celle-là je l'envisage pas, pour tout vous dire.
Michel Catalano pourra se concentrer définitivement sur son entreprise quand le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, dans lequel il est à la fois témoin et partie civile, sera passé.
Et vous attendez quelque chose de ce procès ?
Ce que j'attends, c'est des réponses à des questions qui me paraissent légitimes, c'est-à-dire comment ils ont pu obtenir les armes, comment ils ont pu arriver ici, pourquoi il n'y avait pas de gendarmes ce jour-là dans les parages, toutes les questions qui me permettront de comprendre ce qui est arrivé ce jour-là. Voilà, c'est tout ce que je peux maintenant attendre, puisque de toute façon, comme le mal est fait.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des jours où vous n'y pensez pas ?
Alors, effectivement, au bout de 5 ans, on peut dire qu'il y a des jours où j'y pense pas. Donc, il y a des jours où j'ai des... Alors, pour ça, il faut que j'ai des moments de plénitude. Donc, effectivement, quand mon fils a eu ses 2 enfants au mois de mars pendant le confinement, qu'il a eu des jumeaux, j'avoue que je ne pensais pas à ça et que la nuit, j'ai plutôt pensé avenir et espoir, comme l'avait écrit le président de la République sur mon mur. Mais voilà, il faut que j'ai des moments comme ça. Sinon, ça arrive quand on ne s'y attend pas. C'est surtout le soir, en fait. Dans la journée, je suis tellement occupé. En tout cas, je me concentre sur ce que je dois faire. Et en fait, je dois aussi me concentrer sur plein de choses qui sont ce que ça a révélé en moi, c'est-à-dire l'hypersensibilité, l'hypervigilance, tout ça, c'est des choses que je n'avais pas spécialement moi avant et qu'aujourd'hui je suis obligé de maîtriser. Donc dans la journée, j'avoue que c'est rare, ça m'arrive encore, mais dans la journée, ça va.
Désormais, Michel se concentre sur son entreprise et sur une nouvelle activité directement liée à la journée du 9 janvier 2015. Régulièrement, il fait des interventions dans des écoles, des prisons ou des entreprises pour raconter ce qu'il appelle sa transformation.
Donc effectivement, je témoigne et ça m'apporte énormément. J'ai toujours le besoin d'essayer de faire que ça serve à quelque chose. En fait, je suis plus le même homme. J'ai plus les mêmes ressentis. Je suis transformé complètement par rapport à ma perception des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je relativise tout. Pour moi, l'essentiel de la vie, c'est, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que la beauté d'avoir des petits-enfants. Je sais ce que c'est que le rayon de soleil. Je sais ce que c'est que les oiseaux qui chantent et qui font du bruit. Tout ça, j'ai compris. J'ai compris toutes les choses importantes. Ça m'a complètement changé.
Claudia Prolongeau, comment l'avez-vous trouvé, Michel Catalano ?
Eh ben, je l'ai trouvé marqué, évidemment. Il a du mal à passer à autre chose et je pense que le procès va être très important pour lui dans ce sens-là. Donc, je l'ai trouvé marqué, mais en même temps, j'ai aussi trouvé quelqu'un qui était très serein, qui abordait les difficultés avec une sérénité et qui attendait finalement beaucoup des prochaines années. Il espère que son entreprise va se relever. Il pense qu'à ça, il doute pas beaucoup et donc je l'ai trouvé bien.
Combien de salariés compte son entreprise aujourd'hui ?
Alors, il y en a eu jusqu'à 12 entre la prise d'otage qu'il y a eu dans son imprimerie et la crise sanitaire du coronavirus. Mais là, à cause de la crise, ils sont redescendus à 6 salariés, donc aujourd'hui, il n'y en a plus que 6.
Est-ce que Lilian travaille toujours avec Michel Catalano ?
Non, il ne travaille plus avec lui. Pour Lilian, c'était vraiment trop compliqué de revenir sur ce lieu de travail où il s'était passé cette horreur. Donc lui, il a fallu qu'il parte. Il a même changé de métier. Mais en revanche, il est devenu un client de Michel Catalano et il se voit toujours assez régulièrement dans le cadre du travail, mais aussi à titre personnel parce qu'ils ont évidemment lié des liens très forts et que beaucoup de gens autour ne peuvent pas comprendre. Donc ils s'entendent encore très bien, ils se voient régulièrement.
Merci Claudia et merci à Hendrik Delair, journaliste au Parisien, édition Seine-et-Marne. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi, une réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.